Deux mots donc de peut-être pour me présenter aussi rapidement, pour mettre un peu en perspective ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je travaille depuis peu de temps à la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de Genève, dans un secteur qui s'appelle le secteur formation des adultes, c'est-à-dire où on ne s'intéresse pas à l'enseignement ni à la formation des enseignants, probablement parce que les enseignants ne sont pas pensés comme des adultes, peut-être, ou en tout cas, plus sûrement parce que la formation des adultes s'est constituée historiquement assez largement contre l'école et contre l'enseignement. Et il reste encore des traces, merci, de cette histoire déjà ancienne, hein, qui date du début des années 70, dans la structuration des champs universitaires. Ce qui fait que pratiquement depuis 3 ou 4 ans, ou en tout cas 2 ans, c'est sûr, je ne fais plus de recherche sur l'enseignement, ni vraiment sur la formation des enseignants. J'ai encore deux esclaves qui finissent leur thèse sur ce thème-là, mais après leur affranchissement, ça risque d'être terminé pour ma part. Donc c'était assez intéressant au fond de préparer cette intervention pour moi, pour vous, on verra. Mais ça m'a donné l'occasion de revenir un peu sur les travaux antérieurs qui a démarré une quinzaine d'années et de faire non pas une synthèse, mais d'essayer d'extraire trois ou quatre éléments qui me semblent saillants dans les recherches qu'on a pu faire avec une vingtaine ou 25 collègues un peu disséminés en France et aussi en Suisse et au Québec. Voilà. Donc ce que je vous présente, c'est quelque chose qui n'est pas très très structuré ou faiblement structuré. À la fois, j'essaye de présenter une approche qui s'inspire très très fortement des travaux d'ergonomie ou d'analyse du travail, dont je dirai quelques mots. J'essaierai de vous présenter deux ou trois ou quatre résultats en fonction de la vitesse à laquelle je vais avancer, qui me semblent non pas caractériser ce qu'est le travail des enseignants, mais pointer, hein, comme des vignettes cliniques, des choses qu'on peut en dire à la suite des résultats qu'on a obtenus. Et puis, j'essaierai de boucler sur le sous-titre que je vous propose, qui est l'idée qu'au fond, le travail des enseignants est très très proche du travail des ergonomes qui fabriquent leur travail tout en fabriquant le travail des autres. Et ce qui le rend d'ailleurs, je pense, extrêmement difficile à analyser. Mais au fond, si j'avais une seule chose à dire concernant ce programme de recherche, c'est presque un constat d'échec, c'est-à-dire la difficulté à pointer ce qui fait la spécificité de ce travail. Non pas peut-être parce qu'il est plus complexe que d'autres, mais en tout cas parce que aujourd'hui, en tout cas, je le perçois comme extrêmement énigmatique et difficile à caractériser. Voilà. Donc, si ce programme vous convient, puis même, je pense, si ça ne vous convient pas, on va quand même y aller et on verra. Alors, je disais que ça quelque chose qui a commencé au milieu des années 80 et ça correspondait à ce que Jean-Louis Dérouet présentait comme l'émergence de ces approches de l'action située, en tout cas une réémergence, puisque les idées de situated action ou cognition datent, enfin, on a des textes qui datent des années 40 et puis aux États-Unis notamment et en France, il y a une tradition, en tout cas en francophonie, une tradition dite d'ergonomie de langue française où on s'intéresse à l'action en contexte depuis les années 50 avec un texte fondateur, le texte d'Ombre d'Âne et Faverges, où on établit, enfin, j'imagine que c'est une distinction qui est claire, un constat qui fonde l'ergonomie de langue française, c'est que le travail réel n'est pas le travail prescrit. C'est-à-dire que les opérateurs, quels qu'ils soient, les acteurs, ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Ils font toujours autre chose, même si leur tâche est très simple, très cadrée, très cadenassée. Ils font quelque chose, non pas parce qu'ils sont fainéants, déviants, pervers ou je ne sais quoi, mais souvent ils font autre chose pour pouvoir faire ce qu'on leur demande de faire. Et c'est cette déhiscence, enfin cette distinction entre l'activité réelle et l'activité prescrite ou le travail prescrit, que s'est constituée l'ergonomie et l'approche francophone du travail, tradition dans laquelle j'essaye modestement de m'inscrire. En même temps que les travaux qu'on a développés avec d'autres, hein, s'étendent un peu au-delà de cette approche purement ergonomique et font référence à des approches très très différentes d'analyse de l'action, analyse de la cognition en contexte, dans une approche que je qualifierais d'anthropologie cognitive, c'est-à-dire qui s'efforce d'identifier des formes de raisonnement ou des modalités d'action propres à des contextes différents, contextes professionnels, mais aussi contextes culturels ou autres. Et ces travaux, ces recherches se développent dans une double visée, systématiquement. C'est une visée de recherche, enfin de production de connaissances, tous les travaux de recherche, mais aussi une visée de transformation du réel, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux ambitions qu'on essaye de coordonner sur un mode qui est la plupart du temps contradictoire et très difficile à tenir, c'est-à-dire faire évoluer les situations qu'on analyse, si possible dans le sens d'une amélioration. La plupart du temps, on fait ces recherches à la demande de collègues de terrain, à la demande de milieux ou d'acteurs, et donc, dans le même temps, de produire des connaissances sur ce qu'on est en train d'analyser. Alors, voilà un peu pour le cadre général dans lequel se développent ces recherches. Je suis déjà perdu dans mes notes. Bon. Ce qui nécessite un contrat de collaboration qu'on essaie de rendre le plus explicite et le plus précis possible. Il s'agit de définir les objectifs partagés, communs, d'essayer de les rendre les moins contradictoires possibles, ce qui n'est pas simple. Ça correspond également à un engagement à long terme des chercheurs. On ne fait pas de recherche à moins d'un engagement de 2 ou 3 ou 4 années avec des acteurs dans une institution, un contexte donné. Et ça signifie également une enquête commune, c'est-à-dire que les acteurs de terrain, les enseignants, ce qui nous concerne aujourd'hui, sont engagés dans ce travail d'élucidation de ce qu'est leur propre activité. Je ne dis pas que ce sont eux qui font les recherches, mais ils participent à cette enquête. Ce qui a pour conséquence aussi une présence des chercheurs sur le terrain, longue, prolongée, enfin, par exemple, deux journées par semaine dans l'établissement scolaire où, avec qui le contrat a été passé pendant plusieurs années scolaires. Hein. Donc ce sont des recherches extrêmement impliquantes et pour les uns et les autres, avec cette idée aussi que l'enquête évolue à mesure que la recherche et la collaboration se développent, c'est-à-dire que les objets initiaux deviennent caduques, sont transformés et qu'il y a une remise en question permanente des modalités du contrat. Donc cette délimitation, ce que j'appelle peut-être de manière trop rapide, cette délimitation consensuelle des objets d'étude et de conception, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'y retrouve au moins partiellement, même si ça peut faire l'objet de débats parfois vifs. Enfin, je n'aurai pas le temps de donner des exemples, mais s'il y a des questions, on pourrait développer cette idée-là. Bon. Au plan, je ne développerai pas non plus moi les questions de méthode, mais en tout cas simplement pour dire que ces recherches impliquent donc le recueil de deux grandes catégories de données, ce que j'appelle avec d'autres des catégories d'observation. On va observer ce qui se passe selon différentes techniques, hein, qui vont de l'observation participante de l'ethnologue jusqu'à des enregistrements extrêmement fouillés, la récupération de traces diverses de l'activité des acteurs et des enseignants, donc, ou des élèves, et des données que j'appelle d'autoconfrontation, mais plus largement, ce sont des données à la première personne, si on veut, c'est-à-dire qu'on considère que les enseignants, les acteurs, de manière plus large, savent des choses sur ce qu'ils font, sont capables, sous certaines conditions, dans certains dispositifs contraignants d'ordre méthodologique, d'en dire quelque chose ou d'en montrer ou d'en décrire un certain nombre d'aspects qu'on peut validement considérer comme constitutif d'un matériau de recherche. Beaucoup de circonlocutions là pour arriver à un point qui est quand même un point qui fait débat. Hein. Est-ce que ce sont des idiots culturels ou est-ce que ce sont des individus totalement lucides? Probablement c'est entre les deux, mais le pari qu'on fait c'est de considérer que ce que les acteurs disent de ce qu'ils font peut faire partie du corpus de la recherche. Et puis la démarche sur laquelle donc de traitement de ce matériau, sur laquelle j'insisterai pas, est une démarche de déconstruction, reconstruction. Il s'agit de déconstruire cet écheveau extrêmement complexe et emmêlé qu'est une activité professionnelle pour essayer de la reconstruire avec deux hypothèses fondamentales, deux présupposés. C'est que cette activité est organisée et qu'elle est signifiante. Alors, peut-être m'arrêter quelques secondes sur cette idée-là, enfin, ces deux idées. L'activité est organisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chaotique lorsqu'on entre dans une classe. Hein. Bon, je me centrerai aussi uniquement sur le travail en classe, mais évidemment, le travail enseignant déborde évidemment le travail de la classe, même si cette composante-là est beaucoup moins étudiée que l'interaction avec les élèves. Donc, lorsqu'on est dans une classe, on observe ce qui s'y passe, même si c'est pas toujours au cordeau et si c'est pas d'une régularité extrême, ce n'est pas chaotique. On peut identifier des régularités, une organisation. Donc l'idée que toute activité professionnelle est organisée. Et nous abordons cette question de l'organisation sous une hypothèse très forte, qui est celle d'une auto-organisation, ou même d'une auto-poïèse. En deux mots, pardon pour le jargon, hein. C'est l'idée que cette organisation est émergente. Elle émerge en contexte, même s'il y a des précurseurs et des antécédents de cette organisation, sous forme par exemple de plans de préparation, d'anticipation cognitive, ou sous forme de sorte de préfiguration qui peuvent prendre la forme d'habitus, de schèmes, de scripts, de scénarios ou autres. Fondamentalement, nous faisons l'hypothèse d'une autonomie de cette action, d'une émergence en contexte, et l'idée que cette action ou cette activité se définit elle-même dans ses échanges avec le contexte. On prend ici l'idée de Maturana et de Varela, l'idée d'autopoïèse, hein, les systèmes autopoïétiques définissent leur propre organisation dans leurs échanges avec l'environnement. Ils ne se perdent pas dans l'environnement, dans ces échanges avec l'environnement. Donc c'est l'idée d'organisation en contexte qu'il s'agit de reconstruire, hein, puisqu'on la déconstruit, on essaie de la reconstruire. Et deuxième idée, c'est une organisation signifiante pour l'acteur. C'est-à-dire que ça a une conséquence importante, c'est qu'on essaye de pister cette sémiose à laquelle Gérard faisait référence tout à l'heure, mais en adoptant, si possible, le point de vue de l'acteur, avec cette idée que l'acteur fabrique le monde dans lequel il agit, et donc on va essayer de reconstruire le monde de l'acteur ou le monde des acteurs. J'espère que c'est suffisant pour avancer. Évidemment, s'il y a des questions, je vais essayer d'y répondre, mais... Donc cette idée que l'activité est organisée, signifiante, et qu'on va essayer de retrouver ces organisations signifiantes ou ces significations organisées, en accordant un primat au point de vue de l'acteur. Alors je m'arrête encore peut-être sur ces points généraux, sur l'idée d'un passage dans le travail de recherche, de la description à la typicalisation. C'est un peu en réponse à un échange de mails avec Jean-Louis Derouet qui me proposait de dire deux mots sur cette question-là de l'ancrage des énoncés que peut faire le chercheur dans des données, et notamment sur ces recherches qui sont souvent des études de cas, qui décrivent des situations très très particulières. Comment est-ce qu'on peut faire de la science, ou essayer ou prétendre faire de la science, avec ces énoncés qui sont toujours singuliers, ou en tout cas qui s'appuient sur des données qui sont fondamentalement singulières et idiosyncrasiques. Alors, l'hypothèse très générale sous laquelle ces recherches sont engagées, c'est celle d'une sorte de parallélisme entre l'activité du chercheur et l'activité des acteurs, des enseignants, donc dans ce cas. C'est-à-dire que l'acteur est en permanence engagé dans des situations qui sont singulières. Enfin, ce qui se passe entre nous n'a jamais eu lieu et ça ne se reproduira jamais. Hein. Nous sommes toujours engagés dans une singularité fondamentale, enfin essentielle. Et cependant, donc, d'une certaine manière, on peut dire que notre avenir est totalement ouvert, indéterminé. On ne sait pas ce qui va se passer entre nous dans quelques minutes. Ça pourrait très bien que je me mette un certain nombre de choses pourraient se passer. Tout ne peut pas se passer, mais un certain nombre de choses sont possibles. Bon. Or, on ne s'engage pas dans cet avenir, sauf cas particulier ou pathologique, on ne s'engage pas dans cet avenir sur un mode inquiet, angoissé, enfin pas plus qu'il ne faut, enfin... Pourquoi ? Probablement parce qu'on est capable de tirer des expériences singulières, des éléments de généralité qui permettent, je dirais, de désituer ou de désingulariser cette action pour en faire des ressources pour avancer face à cette béance que constitue notre avenir. Enfin, en tout cas, le mien, il n'est pas écrit. J'espère que je suis clair. Hein. Cette idée-là d'exploiter la singularité des situations pour en faire de la généralité, bon, on l'analyse à partir de quelques propositions qui émanent d'un groupe de chercheurs anglo-saxons mené par quelqu'un d'assez impressionnant qui s'appelle Eleanor Roche, R-O-S-C-H, qui a émis l'hypothèse d'un processus de typicalisation. C'est-à-dire que pour généraliser à partir du singulier, on procéderait, nous procéderions par construction de type, c'est-à-dire qu'on typicalise certaines situations qui deviennent d'une certaine manière des prototypes de la situation d'enseignement, des prototypes de la situation de séminaire, etc. Et ces prototypes servent à aborder l'inconnu, hein, l'action telle qu'elle est en train de se dérouler, à partir de jugements de typicalité ou de non-typicalité. Hein. On peut dire que d'une certaine manière, ce qui se déroule ici aujourd'hui est assez typique de ce qu'est un séminaire de recherche. Et donc, chacun s'y engage sur un mode relativement, enfin, j'imagine, pas trop anxieux, pas trop inquiétant, puisqu'il y a de la généralité et de réinvestissement d'expériences passées sur la base de ces jugements de typicalité. Ça va, j'ai l'impression d'être un peu cafouillou. Et donc, le travail du chercheur, c'est le même. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'à partir de situations singulières, uniques, eh bien, il s'agit d'essayer de généraliser. Et la différence qu'il y a entre l'acteur dans sa vie quotidienne et le chercheur qui est lui-même un acteur dans sa vie quotidienne, hein, bon, mais c'est que le chercheur a du temps, parfois, et prend des précautions d'ordre méthodologique pour procéder à ce processus de typicalisation. Voilà. Repérage de type, donc à partir de critères qui sont variés, sur lesquels je ne veux pas trop m'arrêter, mais l'idée des critères de fréquence. Enfin, il y a des situations qui se reproduisent assez fréquemment chez un même enseignant, chez différents enseignants, et pour qu'on puisse faire une hypothèse de situation typique ou d'occurrence de situation typique. Et puis, on s'appuie aussi, conformément à ce que je disais plus tôt, sur des attestations par l'acteur du fait que les situations qu'on analyse ont un air de famille ou sont typiques. Là, je fais aussi référence à Wittgenstein, comme tu l'as fait il y a quelques minutes. Voilà pour les aspects généraux, je dirais, du programme. Enfin, j'ai bien conscience d'y aller un peu à la louche et rapidement, mais bon, c'est plutôt... je vous lis quelques idées comme ça qui sont soumises à discussion pour la fin de l'après-midi. J'en viens maintenant à une première vignette clinique ou un cas que je trouve assez intéressant. Enfin, il s'agit d'une observation qui a été faite il y a quelques années déjà avec un collègue qui enseignait dans une classe de ZEP en troisième et qui enseignait la physique. Le thème de la leçon, c'était les isolants et les conducteurs. Et c'était très très dur. Enfin, c'était à Montpellier, dans le quartier de la Paillade, dans un établissement très chaud. Enfin, on s'est fait voler notre caméra, pas ce jour-là, mais enfin, dans les interactions. Enfin, donc, vous avez un petit schéma qui est absolument incompréhensible, mais qui représente la classe telle qu'elle est organisée. Les tables sont vissées au sol, les chaises aussi. Au moins, ils ne pouvaient pas les voler. Quoi. Et donc, ils avaient tous leur CAP de délinquants. Et on était là à observer évidemment ce travail dans le cadre d'une convention avec cet établissement de plusieurs années. Et j'ai extrait vraiment quelques minutes d'une observation beaucoup plus large que ça. Et donc le thème, c'était isolant et conducteur. Et l'enseignant avait distribué sur chaque table ou sur laquelle travaillaient deux ou trois élèves une mallette qui comprenait un certain nombre d'objets. Une pile, une ampoule, des fils électriques, puis des objets en bois, en plastique, en ferraille, etc. Et évidemment, la tâche des élèves était de dire quels étaient les objets qui étaient conducteurs et quels étaient ceux qui étaient isolants. Et donc, pour ça, il fallait qu'ils fabriquent un système, un testeur assez simple. Bon. Mais ce quand même constitue une sorte d'épisode héroïque, hein, de la part de l'enseignant dans le contexte où il était. Bon. Donc, il avait fabriqué un transparent, il présente la tâche aux élèves, il maintient le transparent projeté au-dessus de son bureau, et puis démarre à ce moment-là la séquence qui est retranscrite dans le petit encadré suivant. Donc, face aux élèves, il lance un regard circulaire, puis il amorce un déplacement. Il se déplace alors entre les tables et s'adresse à une élève. Laetitia, qu'est-ce qui ne va pas ? Laetitia, ben, le fil est débranché. Oui, sois attentive. Puis il continue de marcher, il observe la troisième table. Il s'adresse à un élève. C'est quoi le principe ? L'élève, ben, si ça s'allume ou si ça ne s'allume pas. Oui, ça veut dire quoi ? Ben, la lumière passe ou passe pas ? La lumière ? Ben, puis parvenu donc au bout de la classe, là, hein, vous devez imaginer qu'il a suivi le trajet extrêmement zigzagant, hein, avec la flèche qui arrive au bout de la classe. Il pivote lentement, il fait demi-tour, puis il se déplace. Cette fois-ci, son déplacement est rectiligne entre les deux rangées pour revenir vers le bureau. Il s'adresse à un élève tout en marchant. Il lui dit « Jamel, moins fort, s'il te plaît ». Voilà la courte séquence. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il manque un morceau. C'est votre cas ? Vous ne le savez pas parce que vous... Il manque un extrait d'autoconfrontation. Je vais le retrouver parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Excusez-moi. Hein. Je ne l'ai pas là non plus. C'est sans doute la faute de ma secrétaire. Désolé, je vais donc vous citer de mémoire l'extrait d'autoconfrontation de cet enseignant. En substance, lorsqu'on lui montre l'autoconfrontation, ça consiste à confronter les acteurs à des traces de leur activité. Et lorsqu'on montre à cet enseignant cet extrait d'enregistrement vidéo, il décrit les choses suivantes. Lorsqu'il s'approche de cet élève, de Laetitia, on lui dit « Mais tu lui dis quoi, là ?» Il dit, je lui pose une question pour qu'elle se rende compte. Mon intention, c'est qu'elle se rende compte que le fil est débranché. Et je ne veux pas qu'elle perde de temps à cause de dysfonctionnement dans son dispositif. Et puis, s'agissant de l'élève qui pense que la lumière, c'est une sorte de fluide qui coule dans le fil, il dit, simplement, je pose la question, j'instille une sorte de doute dans sa cervelle, et puis on en reparlera plus tard. Mais je ne veux pas lui apporter de réponse à cette question-là. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est que lorsqu'il arrive au bout de la classe, lorsqu'il est face au mur, comme ça, je lui dis, et là, tu marques une pause. Il dit, oui, là, c'est ma respiration. C'est un moment où je fais le vide en moi, je respire avant de redescendre au fond de la classe. Au fond de la classe, oui, au fond de la classe, c'est-à-dire là où est mon bureau. Ensuite, il fait demi-tour et il a ce déplacement linéaire, là, vers son bureau, vers l'autre côté de la classe. Et il décrit en substance le fait que lorsqu'il retourne du bout de la classe vers son bureau, il ne regarde pas ce que font les élèves, mais simplement il écoute. Et si le niveau sonore est suffisant, n'excède pas un certain seuil, il ne dit rien, sinon il les rappelle rapidement à l'ordre, au silence et au travail. Et puis demi-tour, et à nouveau, il observe ce que font les élèves en essayant d'accompagner leur travail. Et j'espère, pardon, hein, il n'y a pas de verbalisation, mais retranscrite, mais j'espère que c'est assez clair. Ce qu'il décrit, c'est une sorte d'organisation en trois temps, cyclique, et qui est structurante de son activité, et qui est structuré par son activité aussi, c'est ce passage de son bureau vers le bout de la classe, où il observe et accompagne le travail des élèves, puis le moment de respiration, de pause, on fait le vide lorsqu'on est au bout de la classe, les élèves étant derrière, puis demi-tour et retour vers son bureau. Et au fond, ce qu'il décrit, c'est quelque chose qui ressemble à de la plongée sous-marine, dire quand on descend le long du récif de corail, et puis assez vite, et puis on remonte, on observe les drôles de poissons qui sont en train de s'agiter dans les coraux, puis on reprend une grande goulée d'oxygène, comme il dit, on redescend, etc. Et cet épisode, je trouve extrêmement caractéristique du fait que les modes d'engagement dans les situations de la vie quotidienne, mais notamment les situations de travail, ce mode d'engagement se fait sur un mode métaphorique. La plupart du temps, nous nous engageons dans les situations quotidiennes sur un mode métaphorique. Et ce mode métaphorique n'est pas seulement une forme de rhétorique, hein, c'est pas seulement une forme de langage, c'est une façon de respirer, de s'engager corporellement, de percevoir des émotions, etc. C'est une forme d'engagement d'être à la situation globale, hein. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais simplement cette métaphore illustre, je trouve, extrêmement bien le fait que l'environnement est menaçant, que les choses peuvent se dégrader très très vite, le feu peut prendre dans un coin de la classe, et il y a une sorte d'hypervigilance avec des scandés par des moments où on respire, on se refait d'une certaine manière un peu de tranquillité et de santé, et ensuite on y retourne. Et une fois qu'on a identifié cette métaphore organisatrice du travail, cet enseignant-là, dans cette classe-là, hein, parce qu'il enseignait ailleurs et pas du tout de cette façon-là, eh bien, on se rend compte aussi que le travail des élèves eh bien, s'organise par rapport à cette respiration-là, un peu comme s'il y avait une sorte de contamination. Au passage, ce type d'observation tout à fait ponctuelle nous a incité à développer un programme de recherche qui se développe actuellement chez nous sur les métaphores au sein des systèmes de formation, avec l'impression que, bon, d'autres l'ont dit déjà, hein, je ne vais pas faire une revue de la littérature là-dessus, mais ce mode d'engagement et ce mode d'action que constitue la métaphore est quelque chose d'extrêmement important et prégnant, à la fois pour expliquer les apprentissages, les transferts d'apprentissage et aussi tous les processus de transmission. Voilà, c'est le premier point très petit, comme ça, c'est avec lequel je voulais insister sur l'idée de menace, d'ouverture, indétermination, d'incertitude de l'action des enseignants et d'une série des caractéristiques de l'activité pour faire face à cette indétermination. J'en viens maintenant à un deuxième petit exemple. Hein. Bon, cette fois-ci, je m'intéresse à la discipline la plus importante du système scolaire, qui est l'éducation physique, avec trois épisodes successifs. Hein. Le premier, chez le même enseignant, la même leçon de volley-ball. Hein, et comme vous savez, à l'époque... Quand ces observations, vous ne savez peut-être pas, d'ailleurs, à l'époque où ces observations ont été faites, on n'avait pas le droit de frapper le ballon de volley-ball avec les pieds. C'est plus tout à fait le cas maintenant, encore que certains enseignants maintiennent cette interdiction. Alors, bon, c'est interdit, donc c'est une règle. Interdit de frapper le ballon avec le pied. Et qu'est-ce qui se passe ? Deux élèves se renvoient le ballon avec le pied. L'enseignant leur dit... Je comprends que ça vous amuse parce que c'est un ballon léger et agréable pour jongler au pied, mais justement, c'est pour ça qu'il faut éviter de frapper avec les pieds. Il est trop fragile pour ça, on le bousille rapidement en faisant ça, et le collège n'est pas assez riche pour acheter chaque année des ballons de volley, d'accord ? Un élève, mais on l'abîme pas, monsieur, on a des chaussures souples. L'enseignant, essayez de comprendre ce que je vous dis, c'est pas pour le plaisir de vous embêter que je vous dis ça, c'est un ballon qui appartient au collège, c'est-à-dire qui est utilisé par tous les profs de gym et tous les élèves, et la moindre des choses... pour tout le monde, c'est de ne pas détériorer le matériel commun. Vous pouvez comprendre ça. Oui. Bon, je compte sur vous pour respecter le matériel. En autoconfrontation, cet enseignant, lorsque je lui montre les images de cette séquence, cet épisode, ouais, ce qu'il me dit, c'est souvent le cas en volley, ils aiment bien jouer au pied, le ballon n'est pas lourd, et puis le foot, sous-entendu, ils aiment tellement le football, je fais appel à leur jugeote, là, qu'ils comprennent pourquoi c'est interdit. Ce n'est pas des mauvais bougres, ces deux-là. Je veux qu'ils se disent, ben oui, il a raison d'interdire le jeu au pied. Je me demande s'ils vont comprendre. C'est un peu abstrait tout ça pour eux. La collectivité, le bien commun. Enfin, j'essaye souvent ça, de leur faire comprendre les raisons des interdits, qu'ils voient ce que ce n'est pas, des interdits pour le plaisir d'interdire. Après, je leur demande d'arrêter. Pas vraiment d'arrêter, c'est peut-être utopique, mais sur le moment, je vais être sûr qu'ils ont compris. En me disant, s'ils ont compris, ils respecteront les interdits. Donc, c'est un exemple typique que je considère maintenant comme typique d'une règle qui est argumentée. Il est interdit de jouer avec le pied parce que ça détériore le matériel, or le collège est pauvre, etc. La règle est argumentée sur un mode logique. Deuxième épisode, quelques minutes plus tard, un élève donne un coup de pied dans le ballon. Un autre élève donne un coup de pied dans le ballon. L'enseignant s'adresse à lui. « Laurent, combien de fois faut-il te dire de ne pas jouer au pied avec un ballon de volley ? Je l'ai interdit, oui ou non ?» Laurent, « Oui, monsieur, pardon, monsieur. » L'enseignant, « La prochaine fois que je te surprends à faire ça, ton compte est bon. » Menace avec le doigt, compris ? Alors, le commentaire qu'il fait de cette brève interaction-là est le suivant. « Ça use à la fin, ce gendarmer comme ça pour leur faire respecter un interdit pas si terrible. Hein. Tu vois, c'est mon boulot, ça. Toute la journée, les rappeler à l'ordre, c'est le mot, en se demandant si c'est efficace. Là, je lui dis, mais à lui, tu n'expliques pas les raisons de ton interdiction. » Enfin, je fais implicitement référence à ce qui s'est passé avant. Non, pas à Laurent. J'ai l'impression que ça ne servirait à rien. Non, je ne me demande pas ça. Avec Laurent, comment dire, c'est pas la peine de discuter. En tout cas, pas en ce moment. Il est en phase d'opposition. Et je veux dire, de lui demander de comprendre, je suis sûr que ça ne lui servirait à rien et que de toute façon, il s'en fout d'user ou non les ballons. Alors, je ne perds pas de temps à échanger avec lui. Enfin, pas à ce sujet, tu vois. Donc, voilà, d'où le titre, deux poids, deux mesures. Et troisième épisode. Quelques instants plus tard, si dans cet ordre-là, un élève joue avec les pieds dans un coin du gymnase pendant que le reste de la classe est occupé à des tâches prescrites par l'enseignant, et l'enseignant l'aperçoit, il s'arrête, il fixe cet élève un long moment. L'élève se rend compte que l'enseignant le regarde alors qu'il ramasse le ballon. L'enseignant fait une grimace ostensible, un mouvement des bras indiquant son découragement. Il écarte les bras puis il laisse retomber le long de ses cuisses. L'élève lui dit: « Je vais y retourner, monsieur, j'attends mon tour, monsieur, je fais rien de mal, monsieur. » Et l'enseignant le fixe silencieusement, se tourne vers un groupe d'élèves et les interpelle, et l'élève reprend son jonglage avec les pieds. Et voilà, là c'est un cas, dit-il. Tu vois, il sait bien entendu que c'est interdit, je le rappelle souvent, et en plus il est intelligent, il sait pourquoi je l'interdis. Oui, il est intelligent et c'est dommage qu'il soit comme ça. Je lui ai fait sentir que je suis déçu par sa conduite, mais il va continuer. Regarde, tu vois, je me tourne volontairement sur le côté. Je sais qu'il va continuer. Enfin, je m'en doute, mais je ne veux pas lui dire d'arrêter. Je marque le coup, je lui indique qu'il me déçoit, et puis je ne vais pas plus loin avec lui, mais je ne le laisse pas courir. Je marque le coup. Alors, question intelligente du chercheur. Tu penses aux autres élèves en faisant ça? Ceux que j'ai rappelés à l'ordre avant, ben non, je n'y pense pas, mais je vois ce que tu veux dire. L'interdit est pour tout le monde. Ça, c'est clair dans la classe, mais c'est la façon de s'y prendre pour qu'ils le respectent. Je ne suis pas sûr de réussir, mais si à la fin de l'année, ils sont un peu plus sensibles à la collectivité, j'aurais gagné. Je sais qu'il ne faut pas trop souvent fermer les yeux, parce que, oui, mais je ne ferme pas les yeux là. Jean, je le reprends comme les autres. Tu sais, je suis suffisamment rasoir avec ça. Ils le savent que je ne laisse rien passer. En tout cas, tout ce que je vois, je ne le laisse pas passer. Voilà. Alors, ces trois épisodes-là me semblent assez typiques, pour reprendre la formule que j'employais en introduction, du type de. Alors, on a appelé ça aussi des transactions, peut-être dans un sens assez proche de ce que disait Gérard tout à l'heure, mais enfin, il faudrait regarder de près. Mais cette idée qu'il y a des moments d'équilibre dans la classe. Et que certaines actions de l'enseignant sont en équilibre, sont stables, viables, avec certaines autres actions de l'élève. Et dans l'encadré suivant, j'ai mis en rapport ce qui nous a paru être ces transactions typiques, où on a d'un côté un enseignant qui impose les règles. Il est interdit de toucher le ballon avec le pied. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de le toucher avec le pied, des règles non justifiées, imposées. Et en face, on a une autonomie négative de l'élève, c'est le cas du troisième, de Jean, qui s'autonomise par rapport à la règle, mais de manière négative. Enfin, bon. Et puis, on a un deuxième type de transaction qui est une argumentation-justification. C'était le premier cas, vous vous souvenez, hein, ça use le matériel. Et en face, correspondant à ça, de manière très fréquente, on a une conformité. Des élèves qui se conforment à cette règle, vécue comme une norme externe. Je ne frappe pas le ballon avec le pied parce que l'enseignant l'interdit. Et puis, deux autres registres d'action chez l'enseignant, c'est la négociation implicite ou explicite. Et en face de ça, on a chez l'élève une conformisation à la norme parce qu'elle est intériorisée, une intériorisation des interdits ou d'une certaine manière. Et puis, il y a une sorte d'autonomie à certains moments. On peut s'affranchir de manière constructive et positive de la norme. Hein, et les élèves peuvent même, dans une négociation explicite, fabriquer les règles dans la classe avec l'enseignant. Mais ce qui nous intéressait, c'est de montrer que sur des observations à long terme, on peut observer des élèves dont le registre d'action évolue de l'autonomie négative, pour l'appeler comme ça, jusqu'à l'autonomie positive. Mais ça ne se fait pas par tout ou rien. Ça se fait de manière progressive, graduelle, avec des retours en arrière, et sur la base d'une action en face chez l'enseignant qui ne soit pas totalement décalée par rapport à ces zones d'équilibre dans la classe. C'est-à-dire que si vous avez des élèves qui sont en autonomie négative, il ne sert à rien, probablement, d'être en négociation explicite avec eux, parce qu'il y a un écart trop grand entre, je dirais, le registre d'action des uns et le registre d'action de l'autre. Et, par contre, une argumentation, une justification peut amener, et on l'a observé de manière assez régulière, des élèves à changer de registre d'action. On a également observé que des enseignants peuvent faire régresser des élèves par des comportements ou des actions qui sont d'ordre impositif, alors qu'on a des élèves qui sont déjà à un degré d'autonomie par rapport à la règle. Là, il y a une référence à Piaget implicite dans ce que je dis, très intéressant. Est-ce que je suis clair là ? Non. Donc cette idée qu'on peut, en pistant des situations très très singulières, exceptionnel, on peut malgré tout reconstruire une sorte de modélisation, pas très ambitieuse, mais une typicalisation d'interaction ou de transaction équilibrée ou viable dans la classe. Il me reste 10 minutes, c'est ça ? Bon, est-ce que je... Bon, j'ai le temps peut-être, alors je vais accélérer, non. Le temps pour quand même prendre... 5 minutes pour présenter ce cas de natation, qui est le troisième cas que je voulais illustrer, pour montrer l'idée qu'évoquait Jean-Louis Desrouet au début, c'est l'idée d'action située, le caractère inextricablement lié de la situation et de l'action, ou de l'activité. On pourra réfléchir à la distinction entre ces deux concepts-là. L'idée que l'action fabrique la situation, qui fabrique l'action, qui fabrique la situation dans une sorte de co-définition, de co-détermination permanente. Alors je vais prendre, je ne sais plus ce que je vous ai photocopié, peut-être 2 ou 3 exemples. Oui, 3. Il s'agit d'une situation d'enseignement de la natation, c'est encore de l'éducation physique, là. Et... dans ce schéma superbe, vous avez deux lignes d'eau. Les flèches représentent des élèves. Et la tradition, l'usage, c'est que les élèves nagent les uns derrière les autres et se croisent à droite. Ça va ? On comprend ce schéma ? Bon. Et puis, les cercles grisés avec des pointillés, c'est l'enseignant. Et on a observé 3 façons d'enseigner, assez typique la natation. L'enseignant peut se mettre au bord de la piscine, là, au bord des deux lignes d'eau, et... lorsqu'il est à cet endroit-là de la piscine, le type d'intervention qu'il fait est retranscrit en dessous. Par exemple, l'enseignant dit « Plus vite là, ne tarde pas dans le virage, allez, allez, on ne s'arrête pas, n'attends pas que tes camarades reviennent pour partir. » C'est-à-dire des interventions en direction des élèves qui concernent l'entretien de la file indienne, l'entretien de l'organisation du travail en cours, qu'il commente de la manière suivante. Il y en a déjà pas mal qui ont fini. Ils commencent à mettre la pagaille au bord. Ils sont en train de s'amuser. Si je les laisse trop longtemps comme ça, ils me cassent le rythme de travail. Là, je sens que ça tourne. Là. Tu vois, mon travail, c'est d'entretenir, de faire que ça continue sans accroc. Tu vois qu'ils tardent à repartir. Ça va bloquer le suivant. Je le houspille pour qu'ils repartent vite, vite. Bon. Le fait est que c'est toujours au moment où il faut tourner et reprendre appui sur le bord de la piscine que les transgressions peuvent se produire. C'est là qu'on appuie sur la tête du camarade, qu'on tire sur son maillot de bain ou autre. Bon. Le deuxième type d'activité qu'on observe, c'est celui qui est présenté dans le cadre suivant. L'enseignant, cette fois-ci, peut s'affranchir de cette présence sur les bords de la piscine. Il vient au milieu de la plage, presque collé au milieu de la plage. On a des enseignants qui ne bougent pas d'un mètre pendant une séance de 3/4 d'heure. Ils sont là et ils n'en bougent pas. Et tout se passe comme si, en étant là, au milieu de la plage, ils définissaient une sorte de créneau d'interaction avec les élèves. Chaque fois qu'un élève passe à leurs pieds dans la zone que j'ai matérialisée entre les deux traits en pointillés, l'élève reçoit une interaction verbale de la part de l'enseignant. Du type de celle qu'il y a là-dessous, sous le schéma. Pierre, souffle dans l'eau, mets ta tête dans l'eau. Ou un autre élève. Johan, la tête, allez, souffle dans l'eau. Ou un autre élève. Allonge-toi bien, tire sur tes bras. Donc, ce sont des interactions très brèves qui consistent la plupart du temps à répéter des consignes initiales délivrées au moment où la tâche a été mise en place et qui concernent, je dirais, des formes de mouvements réalisés. Et que la plupart du temps, les élèves n'entendent pas. l'entretien, il me dit, je regarde s'ils font bien ce que j'ai demandé, si ce n'est pas fait, je les corrige. J'en corrige un maximum, comme ça ils sentent que je suis là, je ne les lâche pas. Il ne faut pas que je les lâche d'ailleurs, sinon ils ne feraient rien, ils ne peuvent pas m'échapper en fait. Ils savent que je les regarde et que je suis là. Quand je suis comme là, au milieu, c'est équilibré pour toi. Tu les vois aussi bien à droite qu'à gauche, c'est équilibré aussi pour eux. Ils te voient bien tout le temps, ça les cadre, et c'est comme s'ils ne pouvaient pas trop se défiler. Ma présence les dissuade un peu. Ce qu'il décrit, c'est le fait qu'il est au milieu d'un système équilibré qui fonctionne. La moitié des élèves viennent vers lui, l'autre moitié s'éloigne de lui. Il est une sorte de clé de voûte de l'organisation qui est mise en place, à laquelle contribuent les élèves. Là. Et on pourrait analyser la nature de ce qui est enseigné. Là, ce qui est enseigné, c'est une façon de concevoir la technique de la natation là, qui est, je dirais, extrêmement formelle ou extrêmement superficielle. On n'entre pas dans une intervention en direction des processus d'apprentissage et des processus de production de ces formes corporelles. Ce qu'on peut repérer aussi, c'est que les élèves acceptent ou refusent l'interaction avec l'enseignant. C'est-à-dire qu'il y a implicitement chez eux la connaissance du fait que lorsqu'ils vont passer devant l'enseignant, ils sont susceptibles d'entrer dans une interaction verbale et ils peuvent la refuser en baissant les yeux à l'avance ou en ne regardant pas l'enseignant au moment où il passe à ses pieds, ou au contraire, ils peuvent la solliciter en le regardant dans les yeux. Il y a une sorte de pré-acceptation, a priori, de l'interaction. Bon. Et puis, je ne vous décris pas les scènes amusantes où certains élèves qui n'entendent pas, on n'entend pas ce que vous dit l'enseignant, puisqu'on a soit la tête dans l'eau, on n'entend pas, soit on la sort et il y a le vacarme de la piscine, et c'est tellement bref qu'on n'a pas le temps d'entendre. Donc pour entendre, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent de nager. Évidemment, il y a les élèves derrière qui les percutent. Et on détruit l'organisation du système. Mais comme ce sont de faibles nageurs, ils s'accrochent à la ligne d'eau qui est sur leur droite, ce qui réveille le maître nageur qui est en train de lire l'équipe dans la tribune au-dessus, qui sort son sifflet, etc. Typiquement un exemple de catastrophe par réaction en chaîne. Comme ça. Voilà. Troisième cas. Je vais aller un peu plus vite, si c'est possible. L'enseignant, là encore, est au milieu de la plage et on a une interaction qui est assez différente. Par exemple, avec Ludo, je vais la décrire, l'enseignant se déplace là, le long de la plage, un petit peu en avant de l'élève, et sa vitesse de déplacement est directement asservie à celle de l'élève. Il est un petit peu en avant de lui, et voilà ce qu'il peut lui dire. Ludo, arrête-toi. Oui, Ludo, arrête, souffle un peu. Voilà, tu as essoufflé. Et pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que j'avais demandé. J'avais demandé de souffler dans l'eau, de faire des bulles en nageant. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu souffles hors de l'eau, tu souffles dehors. Alors ça te prend tout ton temps, etc. etc. Bon. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais on a des interactions là qui sont beaucoup plus riches du point de vue du guidage de l'apprentissage et de la spécification de ce qu'il y a à apprendre pour nager correctement. Et il y a des interactions qui consistent aussi en une évaluation constructive de ce que fait l'élève, une proposition de remédiation, puis une évaluation de ce que fait cet élève pour corriger le tir, et ensuite on le laisse se débrouiller ou essayer d'appliquer cette règle qui a été délivrée par l'enseignant pendant qu'on prend en charge un autre élève, et ainsi de suite. Alors, ceci, c'est possible que lorsque les enseignants sont capables de se dégager de l'inquiétude, de l'angoisse, de la menace que représente le chahut ou les transgressions au bord de la piscine. Et par exemple, avec une jeune étudiante stagiaire, je m'étais amusé à ça, elle passait son temps dans les coins de la piscine à surveiller les rotations. Et je lui avais dit, ce que je voudrais, c'est que tu fais ce que tu as prévu de faire, mais je t'interdis de te mettre dans les coins de la piscine, tu vas te mettre au milieu de la plage. Et j'avais même fait deux traits au sol en lui disant, tu ne sortiras pas de ces traces-là. Bon, elle m'a dit oui, d'accord, elle s'est engagée à faire ça. C'est de la formation extrêmement constructive, vous voyez. Et au bout de 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on l'a retrouvée au coin de la piscine. C'est-à-dire que ce que j'essaye de dire là, c'est d'illustrer cette notion d'action située, c'est-à-dire que elle était capable de définir ce que c'est qu'un apprentissage dans une perspective constructiviste, elle était capable de ressortir je ne sais quelle théorie intéressante sur l'enseignement de la natation haute, mais lorsqu'elle était dans cette situation, elle ne pouvait pas changer son mode d'agir parce qu'elle était prise par un système de contraintes qu'elle avait elle-même partiellement fabriqué qui rendait difficile son changement des points d'équilibre de son activité. Je vais prendre 3 minutes pour rester dans les temps et quand même aborder un dernier point, pour pointer encore un dernier aspect qui me semble intéressant, sur lequel un de mes collègues travaille en ce moment, qui s'appelle Alain Muller. Et ce que je vous restitue là, ce sont ses données à lui. Ce n'est pas moi qui restituais ça. Basé sur quelque chose qui a été repéré depuis assez longtemps dans le groupe, c'est que les enseignants ne parlent pas de la même façon quand ils sont en train d'enseigner, quand ils sont dans la salle des professeurs. Et c'est-à-dire qu'il y a sans doute une spécificité du travail des enseignants dont je ne sais pas trop ce qu'elle est, que Alain Muller essaye de pister en ce moment, et je trouve que ce qu'il fait est assez intéressant. Alors, il s'intéresse particulièrement à un petit aspect qui est la présence de systématique de répétition chez des enseignants. Il s'agit donc là d'enseignants du primaire. Et on va prendre l'épisode avec Kai. L'enseignante dit Kai, est-ce qu'il y a un ou des mots que tu arrives à lire ? Il y a des mots qui sont affichés au tableau, et elle demande à un élève, est-ce qu'il y a un ou des mots ou deux mots que tu arrives à lire ? Kai répond oui, l'enseignant vient, et donc elle incite l'élève à venir au tableau, elle montre le mot chair, et Kai lit chair, et l'enseignante chair. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Tu te souviens de ce qu'a dit Kimberly, qui est une autre élève ? Elle montre le mot juin. Kai lit juin. Et l'enseignante dit juin. Puis ça, Kai lit juillet. Et l'enseignante répète juillet. Puis elle souligne juin au tableau. Alors juin, d'accord. Puis elle pointe le mot pour. Kai lit pour. Et l'enseignante répète bon, encore un pour 2005, etc. Bon, je passe le détail, mais séquence, et on en a des dizaines d'autres, au cours desquelles, notamment à l'école primaire, les enseignants répètent des réponses ou des parties de réponses d'élèves, ce qui nous a paru quelque chose d'assez bizarre et qu'on essaye de creuser avec Alain Muller, avec cette idée que lorsqu'on analyse le travail des enseignants, on a au fond deux impressions. La première, c'est que c'est presque une impression d'une grande banalité. Ce n'est que ça, enseigner, c'est faire répéter les élèves, c'est leur donner des consignes. Enfin, d'une certaine manière, il y a une grande simplicité. Et lorsqu'on interroge les enseignants sur leurs intentions, sur les analyses qu'ils font en action, etc., eh bien, on est frappé du fait que c'est toujours quand même assez simple ce qu'ils relèvent, en tout cas beaucoup moins complexe que, par exemple, ce que font des contrôleurs aériens. Bon. Et en même temps, donc l'idée que les enseignants ne sont que là, hein, que sur des choses banales, mais en même temps qu'ils ne sont jamais là. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, ce n'est pas ce sur quoi ils sont engagés, mais c'est autre chose. C'est une sorte, je ne sais pas bien le dire, il faudrait qu'Alain Muller soit là, une sorte de dédoublement de l'activité, qui aurait une sorte d'épaisseur que je ne sais pas décrire, mais qui me paraît de plus en plus être assez caractéristique de cette activité professionnelle et qu'on essaye de pister avec cette recherche qui porte sur les répétitions, mais ça pourrait être sur d'autres choses. Et alors, voilà l'état de l'analyse qu'on peut faire actuellement, rapidement sur les derniers cadres que vous avez sous les yeux. Bon, on analyse ça à partir d'une théorie... une théorie de la signification qui est la théorie de Peirce, qui n'est pas ce qu'il y a de plus facile à comprendre hein, dans la littérature. Mais en gros, l'idée, c'est que vous avez le mot écrit, mettons que ce soit le mot documentaire, hein, c'était le cas dans l'exemple que je ne vous ai pas donné, et puis l'élève lit documentaire. Et imaginons, cas fictif, que l'enseignante dise oui. Dans ce cas-là, l'enseignante valide la mise en correspondance entre le mot écrit et le mot lu. Ça va ? Je vous incite à changer de cadre. Imaginons cette fois-ci ce qui s'est passé, c'est que le mot écrit soit documentaire, le mot lu soit documentaire, et l'enseignante, là, ne dit pas oui, mais elle dit documentaire. Bien, l'hypothèse sous laquelle on travaille, c'est qu'en ne disant pas oui, mais en disant documentaire, l'enseignante fait beaucoup plus que valider la relation qu'il y a entre le mot écrit et le mot lu chez l'élève, parce qu'elle confirme cette relation-là, mais en même temps, elle confirme la relation élève-prof. Et d'une certaine manière, elle dit à l'élève, sur un mode qui est très implicite, je ne suis pas certain que l'élève le comprenne, mais en tout cas, elle dit, ceci est une situation d'enseignement. C'est-à-dire, on n'est pas dans une conversation de la vie quotidienne où on répondrait oui, on est dans une situation d'enseignement. Et elle valide, elle fabrique, dans ce redoublement-là, de mots, elle fabrique deux objets. Elle fabrique l'objet dont il est question, ce dont il est question, peut-être que des didacticiens pourraient peut-être appeler l'objet d'enseignement, je ne sais pas, il faudrait discuter. Hein. Mais en même temps, elle valide, elle fabrique la relation prof-élève. Et il nous semble, j'espère que je suis clair, hein, il nous semble que c'est par des processus microscopiques de ce type-là que les situations d'interaction dont Gérard tout à l'heure disait qu'il ne fallait pas les analyser simplement comme des conversations par des approches linguistiques, ce en quoi je suis totalement d'accord, hein. Ces situations d'interaction qui peuvent ressembler à des situations de la vie quotidienne peuvent, sur un mode potentiel, improbable, devenir des situations d'enseignement. Et je vais finir simplement, parce que là j'ai pris 3 minutes de retard, finir en disant que ces quelques observations là que j'ai présentées de manière beaucoup trop rapide sans doute, bon, nous amènent à déplacer complètement la focalisation de notre programme de recherche qui était engagé depuis plus d'une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, lorsque nous avons commencé à faire ces recherches, nous partions sous l'idée que l'enseignement, c'était ce que faisaient les enseignants. Donc pas d'idée a priori, les modèles et les méthodes habituelles de l'analyse du travail, et l'enseignement, c'est ce que font les enseignants. Et là, on est en train de se demander si on ne pourrait pas avoir une vision un peu moins naïve et dire qu'il n'y a enseignement que lorsqu'il y a, pour parler comme Peirce, une triadisation de la relation élève-prof qui fabrique en même temps de la relation enseignante et de l'objet enseigné. Et on a l'impression, enfin timide et hypothétique, qu'avec cette approche par la théorie du signe Peirce, on peut pister ces moments où l'interaction devient des situations d'enseignement et d'apprentissage. J'ai bien conscience que c'est une cavalcade effrénée et incompréhensible. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.